Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'ostéogenèse imparfaite, ou maladie des os de verre. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Eugénie Koumakis. Docteur Koumakis, bonjour.
Bonjour.
Docteur Koumakis, vous êtes rhumatologue, praticien hospitalier au sein du service de rhumatologie de l'hôpital Cochin à Paris. Et vous contribuez au développement de la filière OSCAR, la filière de santé maladies rares dédiée aux maladies rares de l'os, du calcium et du cartilage. Alors, docteur Koumakis, nous abordons aujourd'hui la prise en charge des patients adultes atteints d'ostéogenèse imparfaite. Et pour commencer, quels sont les enjeux du traitement de cette maladie rare chez les patients adultes ?
Les enjeux du traitement à l'âge adulte sont dans la continuité des soins pédiatriques, mais avec quelques différences. En effet, donc à l'âge adulte, la fréquence des fractures est souvent moins importante, mais il reste important de préserver l'autonomie des patients, l'état fonctionnel des patients, d'éviter de nouvelles fractures et accompagner les patients sur le plan professionnel et psychosocial. Le rhumatologue va être au centre de la prise en charge pour maintenir le suivi de la pathologie osseuse et, comme je l'ai dit, éviter de nouvelles fractures et assurer le suivi des comorbidités extra-osseuses au cours de la vie adulte.
Alors justement, à ce propos, quel est l'intérêt d'un suivi rhumatologique régulier à l'âge adulte ?
Effectivement, donc les fractures sont moins importantes à l'âge adulte, surtout pour les ostéogenèses imparfaites de type 1, mais restent fréquentes dans d'autres formes d'ostéogenèses imparfaites, notamment les types 3 et les types 4. Et ce que l'on observe, c'est que à l'âge adulte, les patients deviennent souvent plus actifs, sont moins protégés que dans l'enfance et peuvent présenter des fractures par une augmentation de leur activité physique. Et donc, l'objectif d'un point de vue rhumatologique va être d'une part d'éviter tout facteur aggravant de pathologie osseuse, et ça va inclure d'avoir des apports calciques journaliers suffisants et, si besoin, d'apporter des suppléments en calcium, d'éviter d'être en carence en vitamine D, puisqu'on sait que la carence en vitamine D va avoir un effet délétère sur l'os, et donc apporter une supplémentation régulière très importante. Et aussi, on peut être amené à prescrire des bisphosphonates. Bisphosphonates très souvent utilisés dans l'enfance, moins souvent utilisés chez les adultes, puisqu'ils sont moins efficaces. Mais on peut être amené à les utiliser en cas de salve fracturaire, en cas de période de très haut remodelage, ce qui peut arriver chez les femmes en post-ménopause ou dans d'autres situations de troubles métaboliques ou endocrinologiques. Et aussi avoir des règles hygiénodiététiques, notamment maintenir une activité physique régulière qui va avoir un effet positif sur l'os. En effet, on sait que maintenir une activité dite en charge avec des petits impacts sur le sol a un effet positif sur l'os.
Alors, au-delà de la prévention des fractures que vous avez évoquées, docteur Koumakis, quels sont les autres symptômes à surveiller particulièrement chez les patients adultes atteints d'ostéogenèse imparfaite ?
Donc, parmi les autres symptômes rhumatologiques que nous rencontrons souvent, il y a une fréquence importante d'entorses et de troubles liés à l'hyperlaxité qui est très fréquente dans l'ostéogenèse imparfaite et qui prend parfois le dessus sur les problèmes fracturaires chez les adultes. On rencontre de nombreuses entorses de cheville, mais toutes entorses également des genoux. Des troubles musculosquelettiques avec des douleurs musculaires, des aggravations de douleurs dans le cadre de scoliose qui est fréquente dans l'ostéogenèse imparfaite. Et donc la prise en charge adulte va avoir pour but de trouver un équilibre qui est souvent difficile à trouver entre une activité physique régulière, mais sans risque de traumatisme et sans risque de chute, pouvant favoriser les fractures. Et c'est ce qui est souvent très difficile à obtenir. On essaye de privilégier l'activité physique à la fois en charge, comme j'ai dit, avec la marche régulière, des activités de musculation, sans risque de chute à nouveau, et la natation qui peut être très bénéfique sur l'état musculaire général. Il n'y a pas de risque de traumatisme, mais il faut savoir que la natation n'a aucun effet positif sur l'os. C'est pour ça qu'il faut y associer la marche qui a cet effet positif sur l'os. Dernier point concernant la prévention des symptômes rhumatologiques à l'âge adulte, c'est le contrôle du poids qui est particulièrement important chez les patients à mobilité réduite. Toute prise de poids peut aggraver des douleurs lombaires et des problèmes d'hyperlaxité ligamentaire. Parmi les autres symptômes à surveiller, il y a également les comorbidités extra-osseuses avec le dépistage d'autres atteintes, notamment le suivi dentaire, puisqu'il y a la dentinogène imparfaite qui peut poser problème à l'âge adulte, les troubles ORL avec une surdité qui augmente en fréquence à l'âge adulte, donc il y a un dépistage régulier par audiométrie, examen ORL, et puis le suivi de potentielles complications neurologiques qu'il faut assurer à l'âge adulte.
Et chez ces patients adultes, quelle est l'importance d'un suivi coordonné entre les différents spécialistes qui sont impliqués dans la prise en charge ?
Effectivement, un suivi coordonné est très important pour assurer la bonne communication entre les différents spécialistes. Donc, le rhumatologue est celui qui va interagir directement avec le patient dans le suivi régulier, mais il va entrer en contact régulièrement avec d'autres spécialistes. Parmi ceux-ci, on a le chirurgien orthopédiste adulte qui peut être amené à prendre en charge une fracture, des séquelles de déformation de l'âge pédiatrique, des reprises chirurgicales sur du matériel mis en place à l'âge pédiatrique ou d'autres troubles orthopédiques. On a également des liens très réguliers avec les généticiens qui, à l'âge pédiatrique, suivent les patients, mais qui peuvent être amenés à les revoir à l'âge adulte lors d'un projet de parentalité, dont la transmission va être rediscutée avec le patient et pour le suivi des grossesses, pour le dépistage de l'atteinte de l'enfant. Le rhumatologue va également assurer la coordination du suivi avec les ORL, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec potentiellement les neurochirurgiens en cas de complications neurologiques et va assurer le dépistage des anomalies cardiaques qui sont très rares, mais qu'il faut quand même dépister. On a aussi des liens très étroits avec les médecins de médecine physique et réadaptation, puisque donc la question de la rééducation et de la prévention des atteintes ligamentaires, musculaires, passent par une activité physique et de la rééducation, tout comme la prise en charge des scolioses. Et donc, le médecin de médecine physique et réadaptation va être vraiment très important dans la prise en charge adulte. Le moment de la transition est un moment clé pour pouvoir mettre en place ce suivi coordonné.
Alors, vous mentionnez la transition, docteur Koumakis. En quoi est-ce un moment clé pour les jeunes patients adultes ?
Alors, c'est un moment clé. Dans l'ostéogenèse imparfaite, il y a de nombreuses différences dans le suivi, dans les intervenants et dans la façon dont est organisée la prise en charge. Alors, déjà, je vais rappeler ce qu'est la transition, puisque c'est la période de passage d'une prise en charge pédiatrique vers une prise en charge adulte pour les patients atteints de pathologies chroniques. Et on sait bien, et c'est le cas pour toutes les pathologies chroniques, que ce processus doit être bien organisé et structuré, puisque le risque d'une transition mal assurée, c'est une rupture du suivi médical et par conséquent, une augmentation des complications de la maladie à l'âge adulte. Dans l'ostéogenèse imparfaite, les enjeux sont différents. J'ai déjà évoqué le fait que les fractures sont moins fréquentes à l'âge adulte, mais qu'il y a toute une série de complications musculo-squelettiques et des douleurs qui peuvent être très invalides à l'âge adulte. Et donc, parmi les autres différences, on sait que, en tout cas pour le suivi à Cochin et à Necker, déjà l'hôpital de suivi est différent, ce qui peut être déstabilisant pour les patients. Les médecins référents sont de spécialités différentes entre l'âge pédiatrique et adulte, puisque à l'âge pédiatrique, c'est un généticien clinique et des pédiatres qui assurent le suivi et un chirurgien orthopédique pédiatrique, alors qu'à l'âge adulte, le médecin, l'interlocuteur principal est rhumatologue avec un orthopédiste de l'adulte différent de celui qui assurait le suivi pédiatrique et le médecin rééducateur également va être différent. Donc tout ça, c'est très déstabilisant pour les jeunes patients et ça peut aboutir, et ça a été le cas pendant longtemps, à des ruptures de suivi et des patients qui disparaissent du suivi en centre de référence. La fréquence des visites est également différente. Les enfants ont une visite au moins annuelle. À l'âge adulte, alors, il faut être très flexible puisque selon la forme clinique de l'ostéogenèse imparfaite, et ça je ne l'ai pas abordé, l'hétérogénéité de la présentation clinique est très importante. On a des patients avec des formes extrêmement modérées, avec très peu de symptômes, et à l'inverse, d'autres patients qui ont des séquelles importantes et des formes plus compliquées qui vont nécessiter un suivi plus régulier. Donc le suivi peut aller de tous les 6 mois, mais à tous les 2 ans quand tout va bien. Les enjeux sont différents. À l'âge pédiatrique, tout est centré sur le diagnostic et sur la prise en charge aiguë des fractures, l'évolution de la croissance, la scolarité et l'activité sportive. À l'âge adulte, ça va être le dépistage des comorbidités et plutôt la prévention des fractures, de conserver l'autonomie et lutter contre la perte de suivi. Et donc, tout ce moment de transition va être déterminant pour éviter d'augmenter la morbidité, éviter des hospitalisations en urgence et des complications qui auraient pu être dépistées plus tôt. En pratique, à l'hôpital Cochin, l'organisation de la transition inclut plusieurs modalités. D'une part, une consultation multidisciplinaire où interviennent à la fois les médecins de l'enfance avec le chirurgien orthopédique, le généticien pédiatre et aussi l'équipe adulte avec le rhumatologue de l'adulte et le chirurgien orthopédique de l'adulte, où l'on va rencontrer le patient, et ce qui permet d'instaurer un climat de confiance et de faire la synthèse du dossier médical en présence du patient qui pourra poser toutes les questions et comprendre quels sont les enjeux du suivi adulte par rapport à son suivi pédiatrique. Parallèlement à cette consultation multidisciplinaire, on a mis en place une consultation en milieu pédiatrique où le spécialiste adulte va se déplacer pour rencontrer le patient dans l'hôpital pédiatrique avec le dossier pédiatrique. Et là aussi, c'est très utile pour instaurer un climat de confiance et permettre au patient de rencontrer l'équipe adulte, mais dans un environnement qu'il connaît bien.
On arrive au terme de notre entretien, Dr Koumakis, et c'est l'occasion de faire un petit peu de prospective. Quelles sont les voies de recherche actuellement en cours dans l'ostéogenèse imparfaite ?
Alors, elles sont multiples, ces voies de recherche, puisque donc on a à la fois les avancées constantes dans le démembrement des différentes formes génétiques d'ostéogenèse imparfaite, c'est-à-dire que depuis 20 ans, toute une série de nouveaux gènes de l'ostéogenèse imparfaite ont été progressivement identifiés et continuent à être identifiés au cours du temps, ce qui permet de mieux comprendre la physiopathologie de l'ostéogenèse imparfaite dans son ensemble. On a également l'identification de gènes de maladies osseuses constitutionnelles au sens large qui permet de développer de nouvelles pistes thérapeutiques de l'ostéoporose, mais également potentiellement de l'ostéogenèse imparfaite. Et puis, il y a toute une recherche clinique importante sur l'histoire naturelle de l'ostéogenèse imparfaite, de la recherche clinique sur le patient au moment de la transition, le patient dans son parcours de soins hospitalier et extra-hospitalier qu'on essaye de mettre en place ici à Cochin, et aussi du patient au moment de la grossesse pour essayer d'identifier les facteurs qui pourraient contribuer à la survenue de fractures au moment de la grossesse. Et aussi de la recherche sur la douleur. Donc, l'ostéogenèse imparfaite est vraiment au centre de la recherche, qu'elle soit clinique et fondamentale dans les centres de référence français et aussi à l'étranger.
Eh bien, merci mille fois, Dr Koumakis, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'ostéogenèse imparfaite, ou maladie des os de verre. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !